Poitiers, un des plus anciens diocèses de France, rendu à jamais célèbre dans l'histoire de l'Église par Saint Hilaire, évêque de Poitiers au milieu du IVe siècle, défenseur enthousiaste de la beauté de la théologie trinitaire face à l'hérésie arienne. Un diocèse touché cependant aujourd'hui par la sécularisation qui fragilise les structures traditionnelles des paroisses. Comme en bien des lieux en France, la vie diocésaine à Poitiers est marquée par les signes de la Pâque du Seigneur. Mort et vie s'affrontent dans un prodigieux duel. Mais l'espérance chrétienne doit avoir le dernier mot. C'est ce que nous dit aujourd'hui Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers depuis 2002. Il trouve des signes d'espérance dans son diocèse, en s'appuyant notamment sur l'exemple d'un saint du Poitou, contemporain du curé d'Ars, saint André-Hubert Fournet.
Il a constamment marché, il a été de communauté en communauté, parce qu'il fallait tout reconstruire à cette époque-là. Et je trouve que nous sommes à peu près dans la même situation. Il y avait très peu de prêtres au lendemain de la Révolution française. Le prêtre doit essentiellement être proche des gens et pouvoir les rencontrer pour, à mon avis, trois fonctions. D'abord, les aider à devenir adultes dans la foi. Le prêtre, loin de tout faire, doit permettre aux chrétiens d'exprimer leur charisme. Ensuite, il est celui qui les rassemble pour la vie eucharistique, la vie sacramentelle. Il tisse des liens de communauté à communauté. Et troisièmement, il relance l'élan missionnaire. C'est-à-dire qu'il évite, comme lui vient toujours d'ailleurs, il évite à une communauté de se replier sur elle-même.
Ça veut dire qu'il est toujours essentiellement en lien avec la communauté.
C'est ce qui me paraît important. C'est ce que le curé d'Ars a su faire d'ailleurs. On n'insiste pas suffisamment sur l'étroite présence du curé d'Ars à ses paroissiens.
Et donc ça veut dire que dans les communautés locales de votre diocèse, comment faites-vous pour assurer qu'il y ait cette présence des prêtres auprès de leurs fidèles ?
Alors il faut que les prêtres bougent. C'est pour ça que je me suis référé à saint André-Hubert Fournet, qui est un exemple pour nous. Si le prêtre ne bouge pas, on ne le verra plus qu'à la sortie des messes et derrière la portière de sa voiture. C'est un peu court. Donc il y a un certain nombre de prêtres qui vont passer 2, 3, 4 jours au milieu d'une communauté. Et après, ils vont dans une autre communauté. Ça suppose évidemment d'avoir un minimum d'équipement, un téléphone portable, un secrétariat à l'endroit où il réside, capable de le joindre à tout moment. Et je voudrais vous signaler qu'en rural, c'est comme ça que vivent énormément de professions. Les médecins vivent comme ça, les vétérinaires vivent comme ça. Donc c'est cette mobilité qui permet la proximité.
Qu'est-ce qui, dans la formation des prêtres, leur permet de s'adapter à cette mobilité nécessaire aujourd'hui ?
J'allais dire deux choses. La première, c'est savoir que le pasteur doit être au milieu de son troupeau. Comme il peut y avoir plusieurs lieux où sont les troupeaux, il faut qu'il aille de pré en pré voir comment se portent les brebis. Le pasteur est un itinérant, il laisse les brebis manger. S'il s'en occupe tout le temps, les brebis arrêtent de manger et s'énervent. Donc elles vont dépérir. Donc cette première qualité, d'aller les rejoindre dans la formation, nous insistons beaucoup sur l'apprentissage de la proximité. Et deuxièmement, il faut qu'il ait une très grande vie intérieure pour être libre. Libre vis-à-vis de tout le monde, ne pas se faire encercler par un petit groupe qui aurait tendance à garder le prêtre pour lui, voyez. Mais il faut au contraire qu'il sache prendre du recul, ce en quoi il est un ancien. Presbyteros, c'est l'ancien.
Et qu'est-ce qui va lui permettre de nourrir sa vie intérieure ?
Le Concile Vatican II nous rappelle que c'est par l'exercice du ministère que le prêtre se sanctifie. Je dirais qu'il faut aussi qu'il sache prendre des moments de silence, d'étude. Il faut qu'il apprenne à lire, à méditer la parole de Dieu. C'est rejoindre, vous savez, la grande tradition spirituelle qui est déjà dans Saint Charles Borromée, d'un prêtre qui doit veiller à sa petite étincelle intérieure qui veut transmettre une flamme à l'extérieur.
Ça, c'est à partir de votre expérience personnelle aussi comme prêtre que vous êtes en mesure de dire cela ?
Oui. Je le vis de mon mieux. Ne faites pas de moi un modèle. Mais oui, en fait, c'est ça qui tient.
Pour vous qui avez été prêtre, évidemment, avant d'être évêque, quelle est votre une de vos plus belles expériences en tant que prêtre ?
Ah, c'est... Je vais vous la raconter. Je venais juste d'être ordonné prêtre et je suis parti le samedi suivant dans mon petit pays. En descendant du train, mon père qui était venu me chercher me dit La mère Intel est en train de mourir, elle veut te voir. Donc, avant d'aller chez moi, on était directement une toute petite ferme minuscule. Dans une petite chambre, cette femme était à la mort. Elle est morte dans la nuit qui a suivi. Et elle m'a dit ceci, « Albert, je voulais te voir, je veux me confesser. Bon, » De sa confession, je ne dirai rien, bien sûr. Mais avant, elle m'a dit, « Tu sais, il y a une chose que je veux te dire. Mon seul regret, c'est de ne pas être assez heureuse. » Cette femme, qui était à l'article de la mort, qui souffrait énormément, parler de la joie à ce moment-là, c'est bouleversant. Et cette phrase a traversé toute ma vie.
Et c'est ce genre d'expérience qui vous permettrait de dire à un jeune homme qui se pose aujourd'hui la question du sacerdoce, ose t'engager au service du Christ comme cela ?
Oui, s'il est capable de recevoir ce message de foi d'une vieille femme en train de mourir, c'est pour moi une condition essentielle pour devenir prêtre.
Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur le futur des prêtres et de l'Église en France ?
Oui, optimiste. J'aime pas le mot optimiste, hein. Je suis plein d'espérance. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'optimisme, ça veut dire qu'on continue ce qu'on a connu. Ça, je suis pas sûr qu'on pourra continuer longtemps. Mais l'espérance est toujours créatrice. Et c'est dans les moments de grande pauvreté que l'espérance se déploie. Et cela, je le vois tous les jours.
Vous avez des exemples concrets dans la vie de votre diocèse qui vous montrent cette espérance à l'œuvre ?
Oui. C'est une communauté qui d'un seul coup se retrouve décapitée parce que les deux jeunes ménages qui étaient les animateurs de la communauté ont reçu l'un et l'autre une mutation professionnelle, obligés de partir dans les 15 jours. Et voilà que d'autres personnes se sont levées en disant « on ne peut pas laisser la communauté comme ça ». Je trouve que c'est merveilleux. Vous savez, le peuple de Dieu est une très très grande réalité.
Et donc c'est cette réalité qui aide à nourrir le prêtre, finalement.
Bien sûr, mais bien sûr, le prêtre faut aussi qu'il partage sa foi avec son peuple, et l'évêque aussi d'ailleurs, l'évêque aussi. Et c'est cette fraternité dans la foi qui nous aide tous, vous savez. C'est comme ça qu'on avance. On n'est pas prêtre pour soi. Ce qui est magnifique, c'est que les gens nous permettent de nous donner. On ne se donne pas tout seul, hein. Parce que c'est très orgueilleux de dire ça. Mais c'est les gens qui nous appellent. Il faut se laisser prendre par les gens. C'est eux qui nous apprennent à devenir prêtres.